grand titre de ce dimanche, nouvelle sanction des Nations Unies contre la Corée du Nord. L'Australie pourrait voter sur le mariage pour tous cette semaine au Parlement. Défaite en finale du 100 mètres de Usain Bolt par Justin Gatlin à Londres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies impose de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord en réponse à ses programmes balistiques et nucléaires. La Corée du Nord sera privée de revenus de 1 milliard de dollars chaque année, le tiers de ses exportations. Écoutez d'abord l'ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre.
Ces sanctions répondent à une menace qui est grave et qui est croissante et qui est mondiale. Ça n'est plus une menace régionale. Nous sommes confrontés à une menace nucléaire mondiale, il faut en avoir conscience. Deuxièmement, à travers cette menace, c'est l'ensemble du régime de non-prolifération, notamment nucléaire, qui est en cause, régime qui est l'une des colonnes vertébrales du dispositif de paix et de sécurité mis en place à partir des années 60. Pour cette raison, notre conviction, c'est qu'on ne peut aboutir qu'à partir d'une attitude de très grande fermeté, dont la résolution que nous allons adopter est l'illustration, et que cette position de fermeté n'est pas une fin en soi, mais déterminé et destiné à nous donner le levier dont nous avons besoin pour permettre une issue politique à la crise. Donc la fermeté est nécessaire pour servir de marchepied à une option politique qui est de notre point de vue la seule issue possible à la crise.
Voilà, c'était l'ambassadeur de France aux Nations Unies. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN, l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est, se rencontrent à Manille ce dimanche et dans les jours qui viennent. La paix et la sécurité régionale sont au cœur des entretiens. Reportage Yelena Tomic pour RFI.
La Corée du Nord est l'un des sujets incontournables de ce forum annuel qui doit réunir à partir de dimanche les chefs de la diplomatie de 26 pays. À l'heure où le Conseil de sécurité des Nations Unies doit décider d'imposer ou pas de nouvelles sanctions au régime de Pyongyang, les membres de l'ASEAN ont refusé la politique d'isolement de Pyongyang prônée par Washington, même si tous ont exprimé leur inquiétude autour du programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord. La priorité est donnée au dialogue, comme l'a d'ailleurs de nouveau fait savoir la ministre des Affaires étrangères sud-coréenne arrivée à Manille cet après-midi et qui a réitéré son offre de discuter avec son homologue nord-coréen en marge du forum. Autre sujet d'inquiétude et de tension, la domination chinoise en mer de Chine méridionale. Le Vietnam a appelé les pays membres à durcir le ton face à Pékin, mais n'a pas réussi à convaincre le Cambodge et les Philippines. Un texte commun a donc très peu de chances de voir le jour, d'autant qu'Hanoï insiste pour y intégrer un code de conduite qui serait juridiquement contraignant pour la Chine.
Yelena Tomic pour Radio France Internationale. En Australie, trois Marines de l'armée américaine portés disparus après le crash d'un hélicoptère au large du Queensland hier lors d'exercices militaires conjoints avec l'Australie. Il y avait 26 personnes à bord de l'hélicoptère et 23 personnes ont été secourues. Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, se dit prêt à négocier avec le gouvernement sur un corps représentatif permanent de la communauté aborigène au Parlement et au sujet de la reconnaissance des aborigènes dans la Constitution australienne. On écoute Bill Shorten sur l'ABC.
We will work with them. We are not fixed in stone. We are up for negotiation, compromise and debate. But the fundamental presumption is that we should have a process in this country where decisions that are made which affect Aboriginal and Torres Strait Islanders are made with them, not without them.
Le chef de l'opposition fédérale. La question du mariage pour tous et le Parti libéral va débattre ce sujet lors de la réunion du parti demain lundi à Canberra. Un des députés libéraux, Trent Zimmerman, déclare qu'il demandera qu'un vote ait lieu au Parlement pour légaliser le mariage pour tous. Les conservateurs du parti demandent toujours qu'un plébiscite ou un vote postal ait lieu pour que le public australien puisse se prononcer. Trent Zimmerman est sur Sky News et il déclare qu'il va soutenir le projet de loi que va présenter son collègue Dean Smith de l'Australie-Occidentale, qui lui est pour le mariage pour tous.
The bill allows same-sex couples to marry so that all Australians have the freedom to marry, but at the same time ensures that a value that is very important to the Liberal Party and to me, that of religious freedom, is protected. So, for example, the bill ensures that no minister of faith is required to conduct a marriage if it's contrary to their religious beliefs.
Voilà le député du Parti libéral, Trent Zimmerman. Tony Burk de l'opposition fédérale déclare sur Sky News que l'opposition fédérale ne va pas présenter une motion de vote de non-confiance au gouvernement si des députés du Parti libéral décident de voter pour le projet de loi de mariage pour tous.
We don't want the Liberal Party room to be able to claim that people who are trying to get legislation through in a similar form to what many members of the Labor Party are trying to get through, that in any way what they are doing is beyond the simplicity of getting a law through the Parliament.
Tony Burk de l'opposition fédérale. Ailleurs dans le monde, au Venezuela, les membres de la nouvelle Assemblée constituante ont limogé la procureure générale Luisa Ortega Diaz, une des principales opposantes de Nicolas Maduro, le président. On écoute Luisa Ortega Diaz.
J'ai peur pour la sécurité du peuple vénézuélien. Vous avez vu comment ils m'ont poussé? Ils en sont presque venus aux mains. Je vais continuer à me battre pour la liberté et la démocratie au Venezuela. Continuer à me battre pour le respect des droits de l'homme, pour sauver la liberté que ce pays a perdue. On verra bien comment je ferai, mais je vais continuer. Ils ne m'ont pas laissé rentrer, malheureusement. Vous avez vu comment ils m'ont bousculé? Comme ils m'ont attaqué avec leurs boucliers pour m'empêcher d'entrer au siège du ministère public? Vous savez ce qu'ils veulent faire? Dissimuler le scandale Odebrecht et celui de la corruption au Venezuela. Cacher les preuves des violations des droits de l'homme qui ont eu lieu dans ce pays. Je vais continuer à dénoncer tout cela.
Violation à los derechos humanos que se ha dado en este país. Lo seguiré denunciando.
Voilà l'ancienne procureure générale au Venezuela. Au Rwanda, le président Kagame est réélu pour un troisième mandat de 7 ans, réélu avec plus de 98% des voix. Il s'est adressé aux supporters devant le quartier général de son parti.
I told the people that if I was not requested to continue, I had no problem to rest and let another Rwandan lead the country. This means that I'm here because I respected your will and request. Today's action confirms the big win. This election was criticized so much due to me continuing to be your leader, especially by people from outside the country, because they opposed the will of Rwandans. But Rwandans have shown that the election was not manipulated by anyone.
Voilà le président du Rwanda, Paul Kagame. Au Kenya, l'opposition a organisé des meetings politiques avant les présidentielles de mardi prochain. Uhuru Kenyatta, le fils du premier président du pays, avait gagné en 2013 contre Raila Odinga et l'opposition avait allégué alors des incidents de fraude électorale. Le directeur de la Commission des droits de l'homme au Kenya, George Kegoro, a déclaré sur Al Jazeera que la peur de la violence pourrait impacter sur le nombre d'électeurs qui viennent voter aux urnes.
I think it will affect all sides, but it will affect mostly the opposition, because the people living in the city are living towards the west of the country. That is where the opposition derives most of its support from.
Le directeur de la Commission des droits de l'homme au Kenya. Les avions de la coalition menée par les États-Unis ont intensifié les bombardements sur les positions djihadistes de Daesh dans la ville de Raqqa en Syrie hier. Le Croissant Rouge, cependant, cite de nombreuses victimes civiles. Reportage Paul Halifé pour RFI.
L'aviation de la coalition internationale a mené une cinquantaine de raids en 24 heures contre 3 quartiers proches du centre-ville de Raqqa, où les djihadistes opposent une résistance farouche face aux combattants de l'Alliance arabo-kurde soutenue par Washington. Ces bombardements auraient fait 43 morts samedi et 7 morts la veille, selon le Croissant Rouge syrien, citant des habitants de la ville. Le Croissant Rouge a précisé que des bombes larguées par des avions ont touché l'hôpital national qui ne serait pas utilisé par les djihadistes pour soigner leurs blessés. L'intensification des raids a pour objectif de briser les lignes de défense du groupe État islamique qui résiste aux assauts des combattants arabo-kurdes appuyés au sol par des unités spéciales américaines. Cette résistance ralentit la progression des troupes arabo-kurdes qui ont occupé 45% de la ville depuis le début de leur offensive le 5 juin dernier. Un haut responsable de la coalition internationale, l'Américain Brett McGurk, a estimé à 2000 le nombre de djihadistes toujours retranchés à Raqqa. La bataille est d'autant plus difficile que plus de 25 000 civils se trouvent toujours dans la capitale autoproclamée du groupe État islamique.
Paul Halife pour RFI. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, déclare que son pays a donné une notification formelle aux Nations Unies que les Américains quittent l'accord de Paris sur le climat.
And this president's been putting America first, like when he announced that the United States of America officially today notified the United Nations that we are withdrawing from the Paris Climate Accord.
Voilà, c'était le vice-président des États-Unis. Et puis, selon une étude sur le réchauffement climatique, le nombre de morts en Europe va considérablement augmenter d'ici l'an 2100. On parle de 152 000 morts par an en moyenne contre les 3 000 ces jours-ci. L'étude a été réalisée par le Centre commun de la recherche de la Commission européenne. Précision de l'axe Minota pour RFI.
Vagues de chaleur, inondations, tempêtes, environ 2 Européens sur 3 pourraient être exposés tous les ans à de telles catastrophes d'ici 2100. Le nombre de morts par an dû au réchauffement climatique augmentera de 5000%. Ce sont les hautes températures qui entraîneront le plus de décès, ainsi que les inondations sur les côtes. En revanche, les tempêtes ne causeront pas beaucoup plus de morts. Les chercheurs soulignent par ailleurs que les décès dus au froid vont évidemment fortement baisser, mais sans pour autant compenser les hausses dues au réchauffement climatique. Petit espoir, l'étude ne prend pas en compte une possible amélioration de la situation grâce à des mesures politiques. La communauté internationale s'est engagée en 2015 avec l'accord de Paris à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Le nombre de morts cité dans l'étude de la Commission européenne pourrait donc être surestimé selon des chercheurs coréens.
L'axe Minota pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 19 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 12, Hobart 11, Canberra 12, Sydney 21, Brisbane 24, Cairns 27, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Nouvelle sanction des Nations Unies contre la Corée du Nord. L'Australie pourrait voter sur le mariage pour tous cette semaine au Parlement. Défaite en finale du 100 mètres de Usain Bolt par Justin Gatlin à Londres. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench